Alors voilà, j'ai fini mon témoignage. Désolé, c'était un petit peu long. mon message ce matin que j'avais pour nous, Église à Kevin, c'était 2025, une année dans la vérité. Ça a l'air d'être basique, ça a l'air d'être de dire bah, je sais c'est quoi la vérité, etc. Mais la réalité, c'est que souvent, on peut être confronté. L'intégrité, ça vient aussi avec la vérité vient avec l'intégrité. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la vérité, c'est comme je dis la vérité, je marche dans la vérité. Lorsqu'on me demande de mentir, je ne mens pas. Je garde une position, donc ça arrive à l'intégrité. Mais pourquoi tout ça? Parce que Jésus également est un Dieu qui nous a montré qu'il a marché dans la vérité, mais que Jésus lui-même se dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le prophète Mahomet n'a pas dit ça. Vous voyez, si vous regardez dans les religions, vous n'allez pas forcément voir ça, mais Jésus, lui, l'a affirmé, je ne suis pas une, je suis la vérité. Et pour moi, c'est important de revenir à cette vérité-là. Donc, on va avoir deux parties. Moi, en tant que chrétien, pourquoi je dois marcher dans la vérité et comment le faire? Et d'une autre partie, pourquoi Jésus est vraiment la vérité? Et pourquoi en 2025, on a bien fait et on fait bien de croire que Jésus est la vérité? Et que finalement, tout ça, c'est vrai, on ne s'est pas trompé. On ne nous a pas raconté un mensonge. Et ce qu'on fait ici, Dieu est vraiment réel, il est présent et il est tout puissant pour agir dans nos vies. Avec la montée des fake news, donc des fausses nouvelles, de la manipulation médiatique et des algorithmes qui favorisent l'émotion sur la véracité, ça, c'était une nouvelle à l'actualité que j'avais regardée. Beaucoup de personnes aspirent à une information fiable et objective. Les gens veulent savoir. Puis, à Montréal, on fait des campagnes d'évangélisation et on a loué un local sur une des rues principales de la ville. Et c'était incroyable comment Dieu a fait ça. Littéralement, le local qu'on a loué, en haut, c'était un salon érotique, masseuse nue. À gauche, c'était une boîte de stripteaseuses. Et sur ce pignon de rue-là, à Montréal, en 40 jours, 1073 personnes ont donné leur vie à Jésus. Avec un baptistère qu'on a amené, on baptisait les gens et on prêchait l'évangile, et les gens confessaient leurs péchés, il y a eu un réveil. Et là, c'est même passé aux informations dans le journal, etc. Et il y avait notamment le doorman, le gars à la porte des stripteaseuses, était là, entendait l'évangile, parce qu'on avait mis un speaker sur le coin de la rue, on faisait de la louange. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait de la louange deux fois par jour, de midi à 15h et de 20h à minuit, et avec des appels au salut constamment, des prédications, etc. Et on a mis le speaker, donc c'est une rue passante, des centaines de milliers de personnes par jour passaient là et entendaient l'évangile. Et le gars à la porte, bah, il entendait parce que c'était littéralement collé, le stripteaseuse à côté à gauche, et juste en haut, c'était le salon de masseuse nue. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le gars à la porte, il a entendu l'évangile, il est venu dimanche à l'église. Il s'est converti et il a démissionné de son travail. Une des filles au-dessus, qui était une masseuse, a démissionné et a accepté Jésus-Christ. Et 1073 personnes ont accepté Jésus en 40 jours. C'était incroyable. J'étais privilégié de pouvoir voir ça de mes yeux, parce que moi, j'étais le pianiste, donc je jouais tous les jours, deux fois par jour pendant 40 jours, de voir vraiment qu'encore aujourd'hui, Dieu peut amener des centaines et des milliers de personnes à la conversion, à la repentance. C'était incroyable. Et j'ai lu également dans le journal, ce que vous connaissez, Libération. Il paraîtrait, alors Chronique, si j'ai bien compris, tu sais ce qu'elle te dit la vérité. C'est un article qui disait, il paraîtrait que les Françaises et les Français voudraient qu'on leur parle comme à des femmes et à des hommes responsables. Non mais allô quoi. C'est l'article. Si j'ai bien compris, femmes et les femmes et les hommes politiques de tous bords sont d'accord sur une chose qu'ils prétendent cependant être les seuls à réclamer, il faut dire la vérité aux Français et aux Françaises. Et mon message, justement, c'est vivre dans la vérité. L'être humain recherche vraiment la vérité. Et pour discuter avec souvent des gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens disent « je veux savoir, je veux découvrir la vérité ». Dites-nous, c'est quoi la vérité? Et la vérité, c'est quoi? Une définition simple dans le dictionnaire Larousse, la vérité, c'est le caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît. Qualité de ce qui exprime pleinement la réalité de quelque chose, expression fidèle de la nature, expression, attitude sincère de celui qui dit ce qu'il sait, qui parle avec conviction. À l'opposé, le mensonge, c'est ce qui est faux, illusoire, trompeur, déguisé, altérer la vérité. Et des fois, on dit, moi, je sais que je vis dans la vérité, mais on dit des demi-vérités. Hein, on connaît ça. Des fois, on dit, moi, je ne mens pas, mais c'est des demi-vérités. Puis avec, ça vient avec de la manipulation, etc. Puis c'est important de, quand c'est A, c'est A, quand c'est B, A', c'est pas A, B', c'est pas B, A, B. Et d'être intègre à, je dois dire la vérité et je dois vivre dans la vérité. Et la nature de Dieu, pourquoi on doit vivre dans la vérité? Parce que la nature de Dieu, Dieu est un Dieu de vérité. Regardons quelques passages dans la Bible. La Bible dit dans Deutéronome 32, verset 4, « Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes, toujours fidèles, jamais injustes. Il est plein de droiture et de... » Psaume 31, verset 5, « Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. » Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, éternel Dieu de... Vous suivez bien? Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est là et toutes les lois de ta justice sont éternelles. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Conduis-moi dans ta... et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Dieu est un Dieu de vérité et la parole de Dieu nous montre partout que Dieu, la vérité pour Dieu, c'est important. Il est vrai et sa parole est fondée sur la vérité. Donc, c'est légitime de placer notre confiance en Dieu et de croire que lorsque lisons la parole de Dieu est la vérité pour nos vies. Est-ce que c'est pas mes émotions qui devraient dicter ma vie, c'est pas simplement ça, mais c'est vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? Comment Dieu me voit? Parce que comment il me voit et ce qu'il dit de moi, ça, on peut lui faire confiance, c'est la vérité. Et on va regarder ensemble l'armure du croyant. L'armure, un soldat romain. J'ai regardé un peu, j'ai fait mes recherches. Voici un peu à quoi ressemblaient les soldats romains de l'époque. Donc, comme vous voyez, on voyait le javelot, le casque, l'armure, les plaques de fer, baudrier, la ceinture, tunique, le glaive, etc. Et puis, quand Paul prend l'exemple d'un romain, ça parlait à tout le monde à l'époque. Et il prend justement l'habit d'un romain pour un peu donner des vérités spirituelles sur ce que c'était. Donc, il parle du casque en haut, le casque du salut, la cuirasse de justice, la vérité pour ceinture, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et le zèle que donne l'évangile, les chaussures. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est que je vous donne un petit peu dans l'équipe. Donc ça, c'est l'équipement. On va passer à la prochaine slide. Voilà, exactement. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, de tenir bon. Ensuite, verset 14. Oui, tenez bon et saignez vos reins de et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances, pas en certaines, en toutes circonstances, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On doit connaître notre parole. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints, etc. Et si je vous donne un petit peu de contexte dans cette histoire, en fait, l'enseignement de l'armure du croyant se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul, comme on a dit, au chapitre 6. Cette section de l'épître fait partie de l'exhortation finale de Paul aux chrétiens d'Éphèse et aborde le thème de la lutte spirituelle contre les forces du mal. Le contexte, c'est quoi? C'est que Paul écrit ces versets qui étaient à l'époque où les premiers chrétiens faisaient face à de nombreuses persécutions et épreuves tant physiques que spirituelles. L'Empire romain qui dominait à cette époque persécutait parfois les chrétiens. Ils étaient exposés à de fortes tentations, des faux enseignements et des influences spirituelles négatives. Et Paul, en tant qu'apôtre, voulait encourager les croyants à rester fermes dans leur foi et à se préparer à résister aux attaques spirituelles qui pouvaient les affaiblir. Dans ce contexte, l'armure du croyant symbolise les moyens spirituels que Dieu a donnés aux chrétiens pour les protéger contre les dangers spirituels. Et cette armure comprend tout ce qu'on a parlé, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures, etc. Puis moi, je veux vraiment m'arrêter sur la ceinture de vérité. La ceinture de vérité, si on peut reprendre la photo du Romain au début, vous allez voir donc la ceinture de vérité, et sur la ceinture est posée l'épée. Et en fait, qu'est-ce que symbolise la ceinture ? Dans l'équipement d'un soldat romain, elle est cruciale, elle joue un rôle crucial. Elle maintenait en place les autres pièces de l'armure et donnait aux soldats la liberté du mouvement. Spirituellement, Paul associe la ceinture de vérité, cette ceinture qui est essentielle pour maintenir cohérence et stabilité dans la vie du chrétien. La vérité est à la fois objective, c'est-à-dire la vérité de Dieu révélée dans les Écritures, mais elle est également subjective, c'est-à-dire la sincérité et l'intégrité dans la vie du croyant. Jésus-Christ lui-même se définit, comme je l'ai dit tantôt, par « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, revêtir la ceinture de la vérité signifie s'engager à vivre une vie honnête, pas dire des demi-vérités, mais être honnête, intègre et vrai, conformément aux enseignements donnés par Dieu, et à combattre les mensonges et les tromperies du monde et les forces spirituelles du mal. Et c'est important de dire qu'on a beau avoir l'épée, on a beau avoir toute chose, c'est la vérité qui va vraiment nous... La ceinture, c'est ce qui nous entoure, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez beau avoir une épée, si vous n'avez pas la ceinture, si vous n'êtes pas entouré de vérité, vous avez beau avoir la parole avec vous, vous avez beau avoir les chaussures du zèle évangélisées, mais si votre vie n'est pas basée, si tout n'est pas vraiment sur la vérité, attaché à la vérité, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Parce que c'est vraiment la vérité qui va être vive dans la vérité, c'est votre caractère, l'intégrité également. Et c'est important que tout soit vraiment, repose sur cette ceinture en fait. Et la vérité n'est pas seulement doctrinale, mais aussi une attitude intérieure qui protège le croyant de l'hypocrisie et du doute. La vérité offre un point de départ pour l'action, car sans elle, les autres armes spirituelles perdent leur efficacité. Donc, bâtissons, frères et sœurs, nos vies sur la vérité. Puis c'est un rappel, probablement vous le savez déjà, mais c'est un rappel. Puis Chrysostome dira, l'apôtre commence par ceindre ce combattant qui, par nature, laisse traîner sur la terre et flotter à tous les vents ses désirs et ses pensées. La ceinture remet tout en ordre afin qu'il puisse courir librement. La photo d'un monsieur qu'on voit juste après, c'est, il se regarde dans la glace, on va dire, je ne sais pas son âge, on va dire 80 ans peut-être, ou moins. Et là, il se regarde dans la glace, et qu'est-ce que la glace lui montre ? Elle lui montre réellement qui il est. Quand vous fondez votre vie sur la vérité, quand vous fondez votre vie sur la parole de Dieu, vous pouvez voir l'heure juste, vous pouvez voir vraiment à quoi vous ressemblez, parce que vous vous identifiez à elle. Mais lorsque vous laissez un peu du mensonge ou des demi-vérités rentrer dans vos vies, prochaine diapo, ce que vous voyez dans le miroir n'est plus vraiment qui vous êtes. Le diable vous fait croire que c'est correct, c'est pas si grave finalement, et l'image que vous avez de vous finalement, vous êtes comme ça, mais l'ennemi vous fait croire que vous êtes comme ça. Et c'est une... qui vous êtes, ce n'est plus la vérité. Et Dieu, en tant qu'enfant... La vérité, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire confiance à Dieu. Ça, c'est une vérité, par exemple. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre dans l'amour. Ça, c'est une autre vérité. Donc, quand vous ne vivez plus dans ce que Dieu veut pour vous, l'ennemi vous fait croire que tu n'as pas besoin, c'est correct, et vous renvoie une image différente de ce que devrait être vraiment un enfant de Dieu et qui vous êtes vraiment. Le mensonge est un poison pour votre âme, frères et sœurs. La Bible dit dans Proverbes 12, verset 22, « Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent fidèlement lui sont agréables. » Et on connaît tous le film, enfin j'imagine, le film avec Leonardo DiCaprio, « Arrête-moi si tu... » parce qu'il y en a qui l'ont vu. Ouais, non, personne n'a vu ce film-là. Ok. Bon, voilà, je plaisante, je vois des mains qui se lèvent. Et c'est quoi l'histoire de ce film-là, hein ? Arrête-moi si tu peux. C'est Frank Abagnale Jr. qui change de métier à plusieurs reprises, notamment de pilote de ligne à médecin, puis avocat pour plusieurs raisons. Un, c'était échapper à la détection au début de son escroquerie. C'est un escroc. Frank se fait passer pour un pilote de ligne, ce qui lui permet de voyager gratuitement, etc. Et quand on commence à lui mettre la main dessus, quand on commence à le découvrir, il change d'identité. Et c'est exactement ça. Lorsque vous vivez dans le mensonge, votre version des choses va s'altérer avec les personnes parce que les informations vont être un petit peu différentes. Et au début, ce que vous aviez dit, c'est ce qu'on appelle un peu le téléphone arabe, vous connaissez ça. Donc on vous dit ça et puis il y a un petit truc qui change. Puis à la fin, c'est une autre histoire. Parce que du coup, ça change. Mais quand vous êtes vrai, ce que vous dites avec Jean-Marc, c'est A. Ce que vous dites avec Francine, c'est A. Ce que vous dites avec moi, c'est A. Vous n'avez pas besoin de vous changer rien parce que c'est juste la vérité. Et ça fait quoi? C'est que ça crée une paix à l'intérieur et vous pouvez en fait avancer avec sérénité dans votre vie. Et c'est important. Et je vous montre, ce n'est pas juste biblique de marcher dans la vérité, c'est scientifique. Il y a une étude en 2016 publiée dans Nature Neurosciences qui examine comment le cerveau réagit en mensonges répétés. Menée par Ney Garrett, Tali Sharod et d'autres chercheurs de l'Université du Collège London, elle montre que l'amygdale, une région du cerveau, je ne sais pas si c'est de l'amygdale ou de l'amygdale, en tout cas, l'amygdale, oui. Une région du cerveau liée aux émotions devient moins sensible avec chaque mensonge répété. Ce qui diminue les émotions négatives associées à la tromperie. Cela explique pourquoi de petits mensonges, ils disent, peuvent évoluer en grande tromperie à mesure que la culpabilité diminue. Au début, c'est un petit mensonge, c'est une petite chose pas intègre. Et puis tranquillement, avec votre cerveau, ça commence. Et puis après, ça va être de plus en plus normal. Et puis à un moment donné, ça va devenir un éléphant. Mais au début, c'était tout petit. C'est comme ça que l'ennemi fait. Il vient toujours avec une petite chose. Oh, si tu manges de ce fruit-là, ce n'est pas si grave. Tu vas juste savoir que voilà, tes yeux s'ouvriront. Mais on accepte ça. Et puis aujourd'hui, on voit tous les problèmes dans le monde. Et puis c'est ça, l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il va toujours minimiser c'est juste un petit péché. C'est un petit mensonge. Ce n'est pas si grave. Non, on doit avoir un caractère positionné sur Dieu. Il dit, c'est pourquoi, en Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et le mensonge a commencé, comme vous le savez, au Jardin d'Éden. Et je ne rentrerai pas là avec le temps qui nous reste. Mais comment Jésus définit le diable? Il dit, vous êtes de votre père le diable et vous faites les désirs de votre père. Jean 8, verset 44 à 47. Il était homicide, meurtrier dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. Le diable est ce qu'on appelle le père du mensonge. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a rien à voir avec le diable. Donc quand il y a des circonstances qui viennent devant vous, et je vais vous raconter un tout petit témoignage de mensonge, quand il y a une circonstance qui vient, parce que des fois, c'est juste des menteurs chroniques, mais des fois, vous êtes face à une situation où c'est comme si vous êtes obligé de mentir, parce que vous êtes soit présent à une situation, soit on vous demande pour sécuriser d'autres personnes de mentir, et vous dites, bon, là, il y avait une bonne raison. Puis je vous raconte rapidement un petit témoignage. Quand j'étais à Montréal, je cherchais un travail, un peu comme en ce moment, mais j'étais à Montréal et puis je cherchais un travail. Et puis là, enfin, je trouve un super travail. J'étais content, j'étais au chômage, j'avais pas beaucoup d'argent, etc. Et je trouve le travail que je désirais. Et là, je rentre dans la compagnie et ils devaient me former dans un magasin. J'arrive et là, un des formateurs, donc, qui était en dessous du boss, me dit, en fait, il roule à 150 sur l'autoroute. Il roule à 150, il se fait attraper par la police, il se prend un ticket de comme 500 $. Il n'a plus envie de me former, il dit « Oh, ça ne va pas. Ce soir, on va retourner au bureau avec tous les autres formateurs, le directeur, etc. Et tu vas faire croire que je t'ai formé. Tu vas dire que tu as eu la formation, que tu as eu ton évaluation. » En fait, il m'a donné toute une stratégie de mensonge pour me dire « Et je te formerai plus tard. » Parce que je n'ai pas la tête à ça. Mais moi, vous voyez, je me retrouve dans une situation où je ne suis pas un menteur, mais je suis confronté à une situation où c'est comme si j'ai besoin de ce travail-là. C'est quasiment un mensonge acceptable parce que c'est pour que je puisse subvenir à mes besoins. C'est parce que je n'ai pas le choix. Et j'étais dans cette situation-là et toute la journée, j'étais tourmenté à l'intérieur de moi parce que je me disais à la limite, je ne veux pas mentir parce que je sais que ce n'est pas bien, mais je vais essayer un peu de tourner quand on va me poser des questions, je ne vais pas répondre, je vais essayer d'esquiver. Vous voyez, je commençais à mettre une stratégie en place pour pouvoir ne pas mentir, mais pas dire la vérité. Ou une demi-vérité. Ou un tout petit, on va détourner un peu. Puis je n'étais pas en paix avec ça. Et puis finalement, j'ai appelé le gars, je lui ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, je ne prendrai pas le travail. Puis je me dis à l'intérieur de moi, Dieu pourvoira d'une autre manière. Et c'est difficile parce que là, j'étais confronté, j'avais besoin de ce travail-là. Ça faisait des mois que je cherchais ce travail-là. Finalement, un chrétien d'une église, je pense que c'était quoi, deux jours après, ou c'était avec Nicolas, il m'offre un travail, le travail vraiment que j'avais de rêve. Il m'a envoyé en voyage d'affaires en France. Il m'a mis à une super belle position. En plus, il était chrétien, donc on priait avant les rendez-vous. Et j'ai eu tout ça, mais avant, je me suis positionné. Vous voyez. Puis c'est ça la foi, et vivre dans la vérité des fois, bah, ça va être lié avec la foi, parce que vous allez vous dire, ok, je sais que je dois vivre dans la vérité, mais je vais perdre quelque chose où l'ennemi dit, mais amen, ça va être mieux pour toi, ça va faire plus de bien à la famille, ça va faire plus de bien, mais en fait, c'est destructeur de un, mais de deux, de vivre dans la vérité, c'est de croire que Dieu va pourvoir, même si je ne le vois pas encore aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est que la pour vivre une vie dans la vérité, ça vient avec une part de foi. Parce que vivre dans la vérité où quand tout est tranquille, c'est facile. Mais vivre une vérité où quand constamment vous êtes confronté à des gens qui veulent que vous mentiez ou quoi que ce soit, et vous dire, je vais peut-être perdre ça, je vais peut-être être viré, je vais peut-être être rejeté, je vais peut-être perdre ma relation avec ma chérie ou pas, ou mon chéri, je vais peut-être perdre. Et là, vous vous dites, je vais perdre. Donc, vous dites, je suis obligé de mentir parce que si je ne mens pas, je perds quelque chose. Mais ça vient avec la foi. Quand vous faites confiance à Dieu et que vous, comme je dis, vous faites de la parole votre vérité, Dieu va toujours s'occuper de vous ensuite dans les détails. Et il va toujours pourvoir à vos besoins. Et c'est ce qu'il a fait avec le travail. Donc, aujourd'hui, dans la vie, tout le monde, le problème, c'est que tout le monde a à peu près sa vérité. Quand vous allez parler avec des gens, ils vont dire, ah non, mais moi, je crois que la vérité, c'est ça. Ou moi, je pense que ça. Et c'est ce qu'on appelle un peu le relativisme excessif. Le fait que chacun s'en tienne uniquement à sa vérité, en fait, sans considérer des faits partagés ou des vérités universelles, scientifiques ou éthiques, cela peut conduire à une désunion sociale où le dialogue devient impossible. Cela s'observe dans des contextes comme la montée des fausses nouvelles ou des croyances non fondées. Ah non, moi, Issa, j'ai ma vérité. L'autre personne, ah non, mais moi, j'ai ma vérité. Puis chacun a sa vérité, puis on va nulle part avec ça. Mais c'est quoi la vérité? Puis Jésus, comme je vous ai dit, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et pourquoi aujourd'hui, en 2025, c'est encore, en fait, crédible de croire en Jésus? Vous savez, frères et sœurs, Jésus a accompli 300 prophéties. Ça, c'est le professeur de mathématiques et astronomie, Peter Stoner, qui dira... Jésus a accompli 300 prophéties, ce qui démontre la cohérence du plan de Dieu à travers les Écritures. La probabilité qu'une seule personne accomplisse même 8 de ces prophéties, là on parle que Jésus a accompli à peu près 300 prophéties, mais le fait qu'une personne sur terre arrive et accomplisse ne serait-ce que 8 prophéties, c'est 1 sur 10 puissance 17. Jésus a accompli 300 prophéties, frères et sœurs. Humainement, c'est impossible. Vous en connaissez des prophéties, les prophéties sur sa naissance, naissance d'une vierge, le lieu de la naissance qui avait été prophétisé à Bethléem, sa lignée, il devait descendre d'Abraham, il devait descendre de David, son ministère, il était un prophète comme Moïse, son rôle de lumière dans les nations, sa souffrance qui a été prophétisée. Ça, Jésus a été prophétisé sur tous les aspects de sa vie. Et c'est incroyable, et c'est 300 prophéties sur Jésus-Christ qu'une seule personne a accompli. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité et parce qu'il est Dieu. Donc, en 2025, nous pouvons avoir confiance que Jésus est crédible. Et ce n'est pas simplement qu'il a existé, mais c'est qu'il est ressuscité, qu'il s'incarne et qu'il est concret aujourd'hui dans mes situations. Quand il dit quelque chose, je peux lui faire confiance. La Bible est vraie. Et la Bible est un livre qui a été écrit sur 1500 années, à travers 40 auteurs différents, sur 3 continents, en 3 langues, hébreu, grec, araméen. Et toutes les écritures vont vers là, vont vers Dieu. Et c'est, il y a une cohérence. Et c'est incroyable de dire, j'ai beaucoup plus de foi à dire que ça a été écrit sur 1500 ans. Quand on est tous sur la même année, par exemple, je dis, bon, ma mère, elle a un pull noir. Michel, elle va dire, oui, elle a un pull noir. Ma grand-mère dit, oui, ma mère a un pull noir. C'est facile, on est tous dans la même pièce et on est tous, on la voit tous dans la même année, dans le même jour. Mais là, imaginez 1500 ans, les gens ne se connaissaient pas, dans trois langues différentes, sur différents continents, et il y a une cohérence dans la parole de Dieu. Waouh! C'est surnaturel. C'est incroyable. La Bible, frères et sœurs, faites-en votre vérité et votre vie ne restera plus jamais la même. Et si vous décidez de vivre dans la vérité, puis je vais finir par ça, ça va vous faire du bien parce que vous n'allez pas avoir une dualité, vous allez être en conformité avec vos croyances. Et d'ailleurs, une autre étude dit qu'une équipe dirigée par le docteur Anita Kelly a mené une étude intitulée « The Science of Honesty », la science de l'honnêteté, méthodologie. Et pendant 10 semaines, 72 participants ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe devait éviter de mentir, même des petits mensonges. Ça, c'est des études scientifiques qui valident ce que je vous l'enseignement de ce matin. Tandis que l'autre groupe n'avait pas de consignes particulières. Les résultats étaient que les participants du groupe honnête ont signalé une diminution des problèmes de santé mentale, stress, anxiété et même physique, maux de tête, gorge irritée. Et l'étude a également montré une amélioration des relations interpersonnelles dans le groupe honnête. Et la conclusion de cette étude-là, c'était que être honnête réduit le stress et améliore le bien-être général. Donc, mais ça, c'est des scientifiques. Cette étude-là était de 2012 et on dit, si scientifique en 2012, je peux y croire. Mais la Bible, ça fait des milliers d'années déjà qu'elle annonce que il faut être dans la vérité, que Dieu est un Dieu de vérité. Et qu'en 2025, lorsque vous allez peut-être être confronté à des situations qui vont vouloir jouer sur votre intégrité, rappelez-vous que lorsque vous positionnez vos pieds dans la vérité, Dieu va toujours prendre soin de vous. Et c'est ce que vous devez faire de vivre dans cette vie de vérité. Parce que votre Père, on a été créé à l'image de Dieu, est un Dieu de vérité. Amen. Donc voilà, c'était mon message ce matin. Puis la dernière photo, on peut mettre à la fin. Voulez-vous ressembler à ça? Vraiment, que savoir vraiment qui vous êtes? Ou est-ce que vous préférez constamment être plus ou moins intègre? Prochaine photo, à celle juste avant, pardon. Et voir quelqu'un d'autre. Qui voulez-vous être? Voilà, j'ai fini pour ce matin. Que Dieu vous bénisse et puis marchons, frères et sœurs, dans la vérité de la parole de Dieu.
Merci, Isa, pour ce.